Venons maintenant dans une partie très importante de notre séminaire. Elle concerne la crucifixion de Jésus. Nous avons partagé tout à l'heure sur ce que nous ne croyons pas dans nos différents séminaires, vous vous souvenez? Maintenant, le plus grand problème reste la mort sur la croix. Dans l'esprit des musulmans, et à cause d'un verset strict du Coran, le Coran dit ceci: ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais ça leur a apparu ainsi. Maintenant, bien qu'il puisse y avoir d'autres versets dans le Coran qui pourraient contredire ce fait dans leur esprit, Jésus n'est soi-disant pas mort sur la croix, c'est ce qu'ils croient à l'heure actuelle, et au moment où ils auraient crucifié Jésus, Dieu a changé l'image de Judas qui a trahi Jésus en l'image du Christ. Dieu a enlevé Christ vivant au ciel et ils ont crucifié à sa place, selon la doctrine coranique, Judas. C'est une rumeur. Il n'est pas écrit dans le Coran textuellement ce que je vous dis. C'est rapporté, ce sont des faits. Malheureusement, c'est beaucoup répandu et c'est dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, si réellement Jésus n'est pas mort sur la croix, comme le dit l'apôtre Paul, finalement notre foi, elle est vaine. Sans la crucifixion, mais qu'est-ce qu'il reste? C'est là le cœur de l'évangile. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour mourir sur le bois du calvaire. Par où commencer? Quand on veut partager cette vérité sur la mort du Christ, comme toujours, nous allons commencer par ce que disent les Saintes Écritures. Et nous allons aller directement dans la Genèse, au chapitre 3, verset 14, qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, en parlant de Satan. L'homme seul, le descendant de la femme, écrasera la tête, bien que celui-ci lui blessera le talon. » Et souvenez-vous, c'est une référence à la croix. C'est la voie, c'est le seul chemin par lequel un serpent est tué en écrasant sa tête. Et Jésus l'a accompli sur le bois du calvaire. Mais nous voulons vraiment accompagner notre ami musulman progressivement. Nous allons aller au chapitre 4 de la Genèse et là nous pourrions partager l'histoire des descendants d'Adam et de Ève. Cain et Abel, les deux fils qui leur sont nés, et Cain en fait travaillait la terre, mais Abel avait un troupeau de bêtes. Au moment où tous deux ont apporté leur offrande, Dieu a agréé l'offrande de Caïn et non celle d'Abel. Dieu a dû enseigner pendant des années à Adam et Ève qu'il fallait apporter une offrande parce qu'ils étaient eux-mêmes revêtus de la peau d'un animal. Et ce symbole existait, a dû traverser les âges. Dieu, quand il les a chassés du paradis, il les a recouverts de la peau d'un animal qui est le symbole d'un sacrifice. Le sang a coulé. Et on voit que là, Dieu jette un regard finalement favorable sur l'offrande d'Abel, qui était en fait l'un des premiers-nés de son troupeau. Il est dit très clairement, Abel, de son côté, apporta un premier-né de son troupeau et de la graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, qui était le produit de la terre, qui était le produit des efforts, qui était le produit de la souffrance. Dieu ne regarde pas à nos mérites, à nos efforts. Dieu ne regarde pas aux fruits de nos efforts. Mais ce que Dieu a regardé, ce que Dieu a agréé, c'était vraiment l'offrande de Caïn. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu n'accepte pas le fruit de notre travail, de notre œuvre qui a été offert de notre part. Mais à l'origine, il a institué le sacrifice des animaux que l'on devrait donner comme une offrande en notre nom. Et vous connaissez le reste de l'histoire, vous pourriez la lire aussi aux musulmans si vous voulez. Cain finit par tuer Abel. Cependant, l'important est que Dieu apprenne à l'humanité comment être racheté. Et les Écritures saintes disent que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi la personne doit mourir. L'animal tué comme une offrande pour nous remplacer cette vie, parce que la vie, elle est dans le sang. Le sang doit être répandu, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de nos péchés. Continuons dans la Genèse, chapitre 22. Nous avons ici là une histoire très importante, et c'est une histoire que beaucoup, je dirais, de musulmans connaissent, puisqu'il s'agit là du sacrifice, je dirais, d'un des fils d'Abraham. Abraham prit son fils, son propre fils, et il alla sur le mont Morija. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dieu parle à Abraham. Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, sa foi était en train d'être éprouvé. Il finit par aller dans une pleine obéissance. Il a pris son fils avec lui et il est monté sur cette montagne. Très intéressant. Le fils alors demande à son père. Père, nous avons le feu. Nous avons le bois. Mais où est l'offrande? Et Abraham de répondre. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu pourvoira. Il est le Jéhovah Jiré. Dieu pourvoit, il fournira l'offrande. Quand il a gravi la montagne, il n'avait pas d'agneau avec lui. Et à ce moment-là, Abraham met son fils, son propre fils sur l'autel et le ligote. Il prend couteau, prêt à égorger son fils. Mais au même moment, dans cette obéissance où il a voulu égorger son fils, il y a un bélier qui est apparu derrière Abraham, où les cornes de ce bélier étaient accrochées à un buisson. D'où l'agneau est-il venu? Un véritable miracle, n'est-ce pas? Dieu a pourvu un agneau miraculeux, venu tout droit de Dieu. Il y a deux choses très importantes dans cette histoire. C'est pas la peine de discuter sur les prénoms des fils, si c'était Isaac ou Ismaël. C'est vrai que les musulmans croient que finalement c'est Ismaël. Et il y a plusieurs temps, j'ai commis cette erreur en essayant, je dirais, de débattre sur le prénom, c'est Isaac ou c'est Ismaël ou c'est Isaac. Le plus important, la réalité, en tout cas, on sait une chose, c'est que c'est l'agneau, c'est le sacrifice, c'est ce qui nous importe aujourd'hui, plutôt que d'arriver dans des discussions qui sont interminables. Nous devons nous concentrer et véritablement partager et être conscient de cette importance, en tout cas, du sacrifice. Que se serait-il passé? Disons, si au moment où Abraham aurait cru entendre cette voix, il l'aurait pris tout simplement pour un tonnerre. Finalement, il n'aurait pas regardé derrière lui et il n'aurait pas vu finalement le bélier qui était là. Que se serait-il passé avec son fils? Oui, vous avez raison. Il aurait été tué. Il y a 2000 ans, Jésus a été suspendu entre le ciel et la terre. Il a été cloué sur la croix, pour vous comme pour moi. Qu'arriverait-il si vous dites non? Ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, il n'est pas mort. Que serait-il arrivé aujourd'hui à vous et moi? Si nous ne croyons pas que Jésus est vraiment mort sur la croix, alors il faut y penser. Laissez seulement cette pensée dans l'esprit de votre interlocuteur, de votre ami musulman. Et j'ai posé cette question de nombreuses fois à mes amis. Et cela vraiment fait réfléchir. Et quand vous leur posez cette question, ils y réfléchissent sérieusement. Je voudrais maintenant poursuivre avec quelques prophéties dont je vous ai fait la liste dans les psaumes où il est dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Il y a des détails dans les prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Prenez du temps et essayez de revoir ces prophéties une par une. Mais il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer. Ici, quelque chose de très intéressant, c'est sur la révélation de Dieu. Voyez comment c'est cohérent et progressif. Nous avons vu dans la Genèse comment Dieu a racheté un homme, je dirais, des conséquences du péché, avec simplement un agneau. Et si vous continuez dans les Écritures saintes, dans le livre d'Exode, quand le peuple juif était sous l'esclavage en Égypte, et le moment où Dieu allait libérer par la main de Moïse pour les faire sortir d'Égypte, tout ce peuple-là, et cette dernière nuit, où Dieu allait frapper les gens et les animaux de l'Égypte avec son ange de la mort qui allait tuer tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, qu'a-t-il dit de faire à son peuple en Égypte? Il a ordonné à chaque famille de prendre un agneau, d'abattre et de prendre son sang et d'asperger sur les linteaux. Et cette nuit, quand l'ange de la mort passerait, quand il verrait le sang sur les linteaux, il passerait outre. Et c'est pourquoi cela a été appelé en réalité la fête de la Pâque. C'est devenu la Pâque juive, parce que l'ange de la mort est passé par-dessus leur maison. Quand il a vu le sang de l'agneau, donc une famille a été rachetée avec un agneau. Si vous continuez dans les Écritures saintes, dans le livre du Lévitique, vous verrez que le grand prêtre, une fois par an, prenait un agneau et l'emmenait à l'extérieur de la ville, puis l'abattre pour les péchés d'un peuple entier, le peuple d'Israël. Dans le livre du Lévitique, un agneau rachète un peuple. Souvenez-vous, dans la Genèse, une personne a été rachetée avec un agneau. Dans l'Exode, une famille entière est rachetée par un agneau. Si un agneau est capable de racheter un peuple, un homme, un groupe, une famille, à plus forte raison à quel point l'agneau de Dieu peut ôter le péché du monde. Voilà la progression.